je viens devant toi, Seigneur Dieu, et remplis-nous, Seigneur. Remplis-moi, éternel Dieu, que, Seigneur, viens parler à nos cœurs par ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu. Seigneur, si ton esprit n'est pas là, Seigneur, c'est une cymbale qui résonne, puis c'est un son qu'on ne connaît pas. Mais Seigneur, je te fais confiance que tu vas agir. Dans le nom de Jésus-Christ, amen et amen. Là, le message que Dieu a mis sur mon cœur, moi, il semble que je suis proche de moi un peu. Je dis, wow, ça va parler à bien des gens, mais je pense que ça a parlé. Plus que je m'en rentrais dans le message, plus que si je me disais, aïe, 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 c'est tellement pour moi, là. Peut-être que ça va être pour quelques-uns ici, je l'espère, mais je sais que Dieu puis l'Esprit a parlé pas mal plus à moi. Ah, ça, je le sais. Fait que si je cherchais quel titre, parce que ça va tout au mieux quand on les met dans l'Internet, là, c'est. Mais là, le titre que j'ai trouvé, puis c'est ce matin, c'est « Dieu reprend et Dieu donne ». Dieu reprend et Dieu donne. On va tourner dans Genèse 37. Et à partir du verset 2. L'histoire ici où je veux vous communiquer, c'est l'histoire de Joseph. Voici, OK, on passe au. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Regardez bien le contexte. Lui, qui vient de la femme que Jacob Emma. C'est lui, Jacob, c'est Rachel qui voulait. Mais Laban, dans sa fourberie, il a donné l'autre, Léa. Ensuite, Léa a donné sa servante. Il y a eu Rachel. Rachel a donné sa servante, ainsi de suite. Mais où est-ce qu'il est, là, Joseph? Il était avec les fils des deux femmes que jamais les enfants, selon que ce qui passait dans ce temps-là, hériteront pas. C'est le premier fils qui va hériter. Mais ça, c'était des fils de sa servante. Puis là, il rapportait tout à son père. Ils ont fait. Puis imaginez la haine qui commençait à s'établir entre ces frères-là, puis Joseph. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Et à partir de là, peu importe qu'il avait eu d'autres fils avec Léa, les autres enfants le savaient que Joseph aimait beaucoup plus Joseph que n'importe qui d'autre. Il était le seul à avoir une tunique de couleur. Fait que déjà, ouais, c'est Joseph qui a la tunique. Déjà là, Jacob démontrait envers les autres frères qui était pour avoir l'autorité dans toute la place. Parce que lui, là, il démontrait ses couleurs. Puis il rapportait tout au père. Fait qu'il était dans une position, là, rêvée, dans le fond. Tu sais, le plus jeune n'était pas encore au monde dans ce temps-là, je pense que le dernier, Benjamin. Fait qu'ils sont à 11 sur 10 frères. Là, les 10 frères commençaient à avoir le quota de Joseph, mais d'une façon sérieuse. Parce qu'il était arrogant, le jeune. Puis ensuite, on continue. Au verset 4, ses frères virent que leur père l'aimait plus qu'eux tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Fait qu'imaginez-vous, là, tes frères, peut-être demi-frères, mais tout de même tes frères, puis là, il y a une animosité, il y a une haine qui s'établit entre lui et toutes les autres. Autrement dit, il y a un clan, puis lui, il est seul. Joseph eut un songe, il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il était fendant pareil, le petit gars, là, parce qu'il savait que ses frères l'haïssaient, là, sûrement. Il ne faut pas oublier que ses frères allaient à lui, il y a une gap d'âge, d'années. Puis ses petits frères, ils ont arrivé comme un escalier. Toc, 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 toc. Après ça, là, Jacob, là, il n'a pas eu tout de suite cet enfant-là. Il y a un trou qui s'est fait, là. Puis là, lui est arrivé, le bébé chouchou, là. Le fils que Jacob a tellement attendu. Fait que, si on va aller dans Genèse 37, à partir du, on va suivre verset 23. Lorsque je, puis là, c'est là, là que les frères n'avaient leur quota, puis on dit, non, on ne peut plus endurer cet enfant-là que nous autres. Là. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait fait sur lui. Voyez-vous, les frères, là, qu'est-ce qu'ils ont fait la première chose? Là? On va y enlever l'autorité qu'il était censé d'avoir, lui. Ils ont arraché la tunique, puis ils l'ont dénudé, puis ils l'ont caché dans une citerne. Là, là, c'était le temps de s'en débarrasser. Parce que c'est son père qui avait dit, « Va voir tes frères, là, que si ça va bien, là, parce qu'on t'a peut-être fait paître les troupeaux plus loin. » Puis Jacob, dans le fond, il aimait pareil les autres fils, mais il aimait, lui, plus que les autres. Puis là, c'était le moment de s'en débarrasser. Verset 24, « Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sein? » Voyez-vous, là, le dessein qu'il avait fait, qu'ils s'avaient tous ligués ensemble, c'était de le tuer. C'était la première idée, là. Puis là, lui, il dit, « Minute, là, qu'est-ce qu'on va gagner à le tuer vraiment, cet enfant-là? On va le vendre, on va s'en débarrasser. » Fait que là, autrement dit, on n'aura pas la malédiction de l'avoir tué. « Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair, et ses frères l'écoutèrent. » Fait que là, lui, dans une position des plus favorables, il n'a absolument rien demandé, il n'a pas péché contre l'Éternel, mais Dieu est arrivé, « Clau, tu perds ton père, tu es éloigné de ta famille, tu rien, même il était dénudé. Quand il était vendu aux Ismaélites, là, il n'y avait rien sur le corps. Il était dénudé. Il a enlevé sa tunique, puis ils l'ont jeté nu dans la citerne. Là, lui, là, imaginez-vous, là, qu'est-ce que tu fais du jour au lendemain quand c'est quelque chose de même qui t'arrive? Tu es dans une position favorable, tu n'as rien demandé, rien. Tout va bien dans ta vie. Et du jour au lendemain, là, la première fois qu'on va crier, Satan, Satan. Comment qu'on a entendu des fois les histoires qu'il est assis là, puis il pleure, puis il dit, tout le monde m'accuse. Souvent, là, souvent, c'est Dieu qui peut arriver, puis dire, écoute, la position que tu es, j'en ai une meilleure. J'en ai une meilleure pour toi. Mais qu'est-ce que ta sécurité que tu es assis dedans, tu l'aurais pu. Tu n'aurais pu cette sécurité-là. Tu vas la perdre. Parce que je veux t'emmener encore à une place plus haut, plus loin. Plus de responsabilités. On va tourner plus loin, Genèse 39. Maintenant, Joseph arrive en Égypte, en esclave, nu. Ça ne va pas en prison, là, lui, là. Il est tout de suite mis aux enchères et il est vendu. Fait qu'imaginez-vous quand il vendait des esclaves de même, là. Il tripotait de tout partout pour savoir s'il était en santé, s'il n'y avait pas de plaie, quoi que ce soit. Puis d'après moi, Joseph, là, il était top-notch. Là. Il était parfait. Là. Fait que le serviteur de Potiphar, lui, quand il l'a vu, c'était une aubaine de l'acheter. Waouh, il était parfait, ce jeune-là. Mais il ne connaissait pas, là. Mais quand tu achètes quelque chose, là, tu le vois et tu dis, lui, il a du potentiel, parce que les esclaves, il y en avait partout en Égypte. Alors, 39, verset 1. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officiel de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'avaient fait descendre. L'Éternel, regardez là, il n'y a pas un verset qui dit avant que Joseph, là, il a blâmé Dieu, ou il a blâmé qui que ce soit. On ne le sait pas. On ne le sait pas, l'histoire ne nous le dit pas. Mais ça dit qu'à partir de quand il s'est fait acheter par Potiphar, l'Éternel est avec lui. L'Éternel et la prospérité l'accompagna. Imaginez-vous, est-ce que peut-être Potiphar, sans le savoir, là, il venait d'acheter une mine d'or, là, lui. Là. Une mine d'or, là. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa en son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Imaginez-vous, Joseph avait de la misère avec ses frères, il rapportait tout à son père, il perd tout, arrive dans un pays, il est vendu, puis là, il se refermait en autorité, mais encore beaucoup plus, parce que là, il contrôlait la maison de Potiphar. Fait que Potiphar, il n'y avait pas juste un serviteur-là, c'était plein de serviteurs, plein de servantes, mais lui, il avait le contrôle du tout. Il montait en autorité. Il a tout perdu, mais oups, pow, tiens, mon ami, t'es rendu là, puis tu contrôles mon affaire, là. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut tout sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Alors, quand Dieu bénit oint un frère et une sœur, ben c'est une bénédiction pour toutes nous autres. L'Éternel va descendre sa bénédiction de cette personne-là, puis ça va venir nous chercher. Tout le monde, on va tout en bénéficier de cette bénédiction-là, de l'onction que Dieu a mis sur le pasteur Marcel, pasteur Claude, notre sœur Denise, peu importe qui, on est une source de bénédiction. Hein? Verset 6, « Il abandonna aux mains de Joseph tout ce que lui appartenait. Il n'avait d'autre soin que de prendre sa nourriture. » Mais attention, la prochaine phrase, ça dit que Joseph était beau de figure et de taille, ce que Potiphar avait vu quand il l'a acheté. Mais la femme de Potiphar le convoitait. Puis lui, il a dit non, jusqu'à un jour qu'on n'en pouvait plus. Il y a eu des fausses accusations. Fait que là, il a monté, il est arrivé là encore plus haut, sans qu'il demande rien. Il s'est tout fait enlever au complet. Il a perdu son autorité qu'il avait là. Il a tout perdu encore. Où est-ce qu'il se retrouve? En prison. Fait qu'on va aller 29-20. Il prit Joseph et le fit mettre dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Mais là, ce qui est intéressant, là, c'est les prisonniers du roi. Ce n'était pas des malfaiteurs qui étaient là. C'était des gens qui sont peut-être en autorité en dessous de Pharaon, puis Pharaon, il était déçu. Toi, tu t'en vas là. Peut-être un soldat, je ne sais pas, mais ce n'était pas des malfaiteurs, quand on lit ce bout-là, là. C'était les prisonniers de Pharaon qui étaient là. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sa bonté. Ah! Encore là, on ne l'a pas entendu se plaindre. Il arrive dans la prison, puis l'Éternel, sa bonté est encore sur lui. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Imaginez-vous, le chef, il arrive, puis il dit, « Wow, lui, là, il a du bon potentiel. » Parce qu'oubliez pas, c'était des gens peut-être assez instruits qui sont à tout là, dans l'intelligence des Égyptiens, parce que c'était tous des prisonniers de Pharaon qui étaient là. On va le voir plus tard qu'il y en avait qui viennent de là. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison et rien ne se faisait que par lui. Fait que ces prisonniers-là qui étaient là étaient habitués à une autorité, à se faire donner des ordres, à se faire ci, à se faire ça. Tandis que le bandit ou le méchant, tu ne peux pas le reprendre, la parole nous dit. Il ne peut pas reprendre le machin, puis il ne peut pas recevoir des ordres de qui que ce soit. Fait qu'eux, quand il a mis Joseph en autorité, ils se sont tous soumis à Joseph. Là. D'après moi, ils se sont tous soumis, parce qu'ils étaient habitués à une autorité supérieure. Imaginez-vous, là, il est parti de là, Il arrive là, il arrive en prison, paouh, l'autorité y revient. Puis là, sur tous des gens assez élevés dans un certain rang social égyptien. Ensuite, on le sait, on connaît qu'il y avait le panetier de Pharaon, puis il y a aussi les chansons de Pharaon, que lui, il emmenait sa coupe. Imaginez-vous, lui, sa job, c'était d'amener sa coupe de vin à Pharaon, dans ses mains. Il était assez proche? Oui. Il avait-tu une autorité? Oui, il y en a une. Est-ce qu'il était soumis? Il n'a pas le choix. Pourquoi il est en prison? Parce qu'il y a une... Il s'est pas soumis, peut-être à quelque part, il y a une désobéissance. Ça ne le dit pas. Mais il a déplu à Pharaon au point qu'il s'est retrouvé en prison. Ils ont eu des rêves. Mais là, Dieu s'est servi de Joseph, comme il s'avait servi de Joseph avec les deux rêves qu'il avait eu à ses frères, les gerbes qui... Puis là, il dit, « Oh, paniquez pas! » Fait qu'il dit à un, « Toi, dans 3 jours, tu te fais couper la tête, puis toi, dans 3 jours, tu vas donner la coupe dans la main de Pharaon. » Et c'est ce qui est arrivé. Puis ils ont parti. Puis qu'est-ce que Joseph a dit? « Ne m'oublie pas. » Qu'est-ce qui est arrivé? Il a oublié. Combien de temps? 2 ans. Il était 2 ans à faire ce qu'il faisait pareil, mais tout de même, peut-être, lui, dans son fort intérieur, il dit, « Voilà ma porte de sortie. Voilà ma porte de sortie. » Mais il est demeuré encore 2 années. Ensuite, au bout de 2 ans, écoute, je la connais assez l'histoire, je pense que je n'ai pas besoin de lire quasiment. Pharaon a eu un rêve. On connaît les 7 épis et les 7 vaches. Maigre et grasse, et les 7 épis qui étaient beaux, puis l'autre n'était pas trop joli. Fait venir tous les sages de l'Égypte. Personne peut trouver l'énigme ou le songe. Donner une solution ou l'interprétation du rêve. Voilà que les chansons. Ouh, là, c'était la panique, là. Parce que là, plus personne n'arrivait à trouver. Là. Puis j'imagine que peut-être lui, la colère, l'irritation, on ne sait pas. Oh mon roi, j'ai connu un jeune en prison, il y a 2 ans, qui a interprété le rêve du panetier puis de moi, puis il ne s'est pas trompé. Faites-le venir. Fait que là, ils l'ont tout rasé, ils l'ont tout préparé selon. Tu n'arrivais pas devant Pharaon. C'est ça. Fait qu'ils l'ont préparé. Genèse 41, verset 37. Là, Pharaon, après qu'il a dit l'interprétation du rêve, voici dans cette année, tu vois, cette année d'abondance, et des 7 prochaines années, ça va être des années de sécheresse. Voici, ô roi, fais ceci. Ramasse quand tu peux ramasser, puis tu vas être dans l'abondance. Ça le plut à Pharaon, il dit. Puis c'est là qu'il dit, au verset 38, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? » Toi, Pharaon, t'es capable de dire ça. Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. » Mais la parole me dit, si tu manques de sagesse, demande-la à Dieu. Doute pas, Dieu va te remplir de sagesse et d'intelligence. Puis Dieu va nous donner de l'intelligence et la sagesse d'accomplir des choses au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. C'est juste par la foi qu'on accepte ces choses-là. Verset 40, « Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres, seul le trône m'élèvera au-dessus de toi. » Imaginez, là, lui n'a jamais rien demandé encore, je le répète. C'est tout fait enlever. Dieu reprend. Dieu donne. Après ça, il est parti dans la maison Potiphar. Dieu reprend. Dieu donne. Mais il a toujours monté en autorité parce que Dieu avait un plan précis pour Joseph. Mais lui, il ne pouvait pas le savoir pas avant de suivre les étapes. Ensuite, il arrive à Pharaon. Juste le trône me sépare de toi. Ça veut dire qu'il avait toute l'Égypte, il avait toute autorité sur toute l'Égypte entière. Imaginez-vous, c'est quelque chose de pareil. Mais Dieu avait un but pour ça. Puis on sait que la sécheresse est arrivée, puis là, ils ont commencé à manquer de blé. Et là, Jacob a envoyé ses frères en Égypte, que lui, Joseph, a reconnu ses frères. Fait qu'imaginez-vous, là, le tirage pareil qui s'est fait. Lui, il ne sait pas c'est qui, mais lui, là, je fais quoi, là? Ils m'ont voulu me tuer, ils m'ont vendu, j'ai traversé toute cette épreuve-là. Qu'est-ce que je fais? Je les prends, je les fais mettre en prison. Mais ils ont travaillé pareil, d'une manière, là. Ils ont travaillé. Mais l'histoire nous dit qu'il a dit, allez, va chercher papa, amène les enfants, amène, puis je vais vous faire vivre dans le pays d'abondance que je suis dedans. Genèse 45, 10 nous dit, tu habiteras dans le pays de Goshen, et tu seras près de moi, toi, tes fils, les fils de tes fils, tes brebis, tes bœufs et tout ce qui est à toi. Puis on lit plus haut, hâtez-vous de mon père, Joseph. Okay. Fait qu'ils ont tous rentré en Égypte. Toute la gang sont là. Puis Goshen veut dire un lieu du soleil, une terre de force, une terre herbeuse. Mais là, les années s'écoulent. Puis Jacob approchait la mort. Mais là, les frères, là, lui, là, toute la gang de frères, là, tant que Jacob était vivant, là, c'était comme un peu la sécurité face à Joseph. Parce que Joseph, il disait, viens-t'en, vous êtes bénis, mais quand il va partir, le père, qu'est-ce qu'ils vont lui faire, là, lui? Je ne sais pas. Ah ouais, c'était la grosse inquiétude, là. Il va-tu agir de même le temps que le père était là, parce que lui, il respecte, même si Joseph était en autorité de même, il respectait l'autorité de son père. Oui, c'est une bonne idée. Fait que là, Joseph 50, verset 15. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine, et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. C'est ça qu'ils avaient peur, eux autres, là. Même si les avançaient, puis ils sont dans l'abondance avec Joseph, il est venu à un moment donné, quand le patriarche est parti, aïe, 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 qu'est-ce qui va nous arriver? Et ils firent dire à Joseph, ils n'ont pas été voir Joseph, là. On peut voir que même à cette époque-là, Joseph était déjà établi. Il ne pouvait pas être avec ses frères, parce qu'il était avec Pharaon. Fait qu'il y avait pour avoir une audience, il fallait qu'il fasse parler quelqu'un pour aller voir Joseph. Il fit dire à Joseph, « Ton père nous a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. » Joseph pleura en entendant ces paroles. Parce que les frères n'avaient rien compris encore. Tout ce qui s'était passé avec eux autres. C'est Dieu qui avait tout planifié. Puis Joseph avait vraiment pardonné à ses frères-là. C'était fini, ça. Mais les frères avaient... Parce que les frères regardaient encore dans le naturel. Ils sont pas encore dans le spirituel. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et le dire, « Nous sommes tes serviteurs. » La crainte, on va te servir, là. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? C'est pas moi Dieu. Dieu a tout fait ça dans ma vie pour un plan bien précis. Vous faire vivre, puis vous faire vivre dans cette terre qui est en Égypte. Et voilà. Et ouais. Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Quand il vous arrive quelque chose, la première étape, c'est pas trop de paniquer. Okay? Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Fait qu'on voit l'histoire de Joseph, c'est ce qui est arrivé. Maintenant, j'ai un autre personnage qu'on va aller voir. David. David, premièrement, on sait les Israélites sont attanés des juges, ils n'en voulaient plus. On veut un roi comme les autres nations. On veut un roi comme les autres nations. Ils ont crié à Samuel, Samuel, tu vas leur donner un roi, tu vas leur en donner un. Ils ont donné un roi beau, qui dépassait tout le monde d'une tête. Saül, le roi, quand ils ont vu le roi, oui, c'est le roi qu'on veut. Il est parfait. Il est beau. Il est grand. Il dépasse tout le monde. Mais quand Dieu l'avait appelé, qu'est-ce qu'il avait fait? Il s'est caché dans des bagages. Il s'est caché, c'est ce qu'il a fait. Mais on sait l'histoire que Saül n'a jamais été fidèle à Dieu. Il ne prenait pas ses décisions avec le prophète. Est-ce qu'on fait ceci? Est-ce qu'on fait ça? C'est pour ça que Dieu l'a rejeté. Mais Samuel, il a pleuré Dieu souvent. Pardonne-les, pardonne-les. Il dit non, 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 that's enough. Je le rejette parce qu'il ne m'écoute pas. Là, là, tu vas partir, tu vas t'en aller, puis tu vas aller oindre le prochain roi que moi ici, là, j'ai choisi. Alors, si on va retourner au 1 Samuel 16. Samuel 16, on va aller à partir du verset 1. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Pourtant, Dieu avait choisi pareil le premier. Mais Dieu a fait, je pense, a fait exprès. Il dit, je vais lui donner un roi, là, mais un roi qu'eux autres veulent avoir. Amen. Amen. Alors, ça, verset 2. Samuel dit, « Comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. » Fait que là, il a dit, « Bien, écoute, va-t'en dans ce village-là, puis dis que tu t'en viens faire un sacrifice, prends les anciens de la ville, la famille d'Isaïe, qui était le père de David ou de tous ses fils, parce qu'il avait dit, les fils de David, les fils d'Isaïe. Puis il dit, « Je vais loindre. » Alors, lorsqu'ils entrèrent, il se dit, là, Samuel, en voyant Éliab, « Ouf! Wow! Certainement, c'est le loin de l'Éternel est ici. Certainement, loin de l'Éternel est ici, devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'homme ne considère pas ce que l'homme... » Excusez. « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Il fit passer toute cette pensée des fils. Parce que là, je vais donner du temps. Il a fait passer les fils jusqu'à temps qu'il dit, « Hey, Isaïe, t'en auras pas un autre qui traîne en quelque part dans le tas. » Oh, oui, 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 oui. Le petit gars, là, il était avec les brebis dans le champ là-bas. Mais c'était un enfant. On peut en déduire qu'à cette époque-là, David a dû avoir 12, même pas 16 ans. Je pense pas qu'il avait 16 ans. Il a dû avoir à peu près une douzaine d'années. Il était tout jeune. Tout jeune. Puis là, ils l'ont fait venir. Au verset 12, Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. Ça, c'est la prochaine phrase, il faut s'en rappeler. L'Éternel, l'Esprit de l'Éternel saisit David. Maintenant, à l'âge qu'il était, il l'a saisi. Puis ensuite, on sait que quand Saül, l'esprit se retira, fait que là, il y a eu des suggestions. Ils ont dit, écoute, on connaît quelqu'un qui joue de la harpe, là, puis il va venir, là, puis il est capable d'apaiser les esprits. Allez me le chercher! Puis qui amène? David. David quoi? David quand il était jeune. Quand il était jeune, quand il était détoin. L'onction était sur lui. Joue de la harpe, l'esprit. Oui. Pourtant. Puis David, puis Saül, pensez-vous là, que quand il a vu ce jeune-là arriver, là, il a vraiment marqué le jeune. Il était tourmenté le gars là, par des esprits. Il n'a pas marqué, parce pourquoi? Parce des serviteurs, des chants, des musiciens, il y en avait. Il y en avait. Sauf que lui était loin. Les autres pouvaient jouer, l'esprit est encore là. Mais Dieu avait été loin. Fait quand il arrivait, puis il jouait. Puis Saül, là, il n'a pas marqué ce jeune-là. Là. Oubliez ça, il ne l'a pas marqué. Mais vous allez voir plus loin où ce qu'il va leur marquer. Un petit gorgé. Ensuite, OK. Là, il arrive. Là, on ne dit pas le temps que ça allait arriver au temps que quand les Philistins ils ont arrivé avec Goliath. Il y a un laps de temps. La Bible ne nous dit pas tout le temps. Tu sais, des fois, on va lire et on dit, on prend pour acquis que qu'est-ce qu'on lit là, puis qu'est-ce qu'on lit le prochain verset, ça suit, ça, c'est le lendemain matin. Des fois, ça peut être un an, 4 ans, 5 ans, 10 ans. On le sait, c'est pas défini. Mais à force de lire, puis on peut voir le contexte. Ah, ça peut arriver tout de suite demain. Mais là, il y a un laps de temps qui est arrivé. Et voilà que là, les Philistins défient Israël avec un géant qui s'appelle Goliath. Puis là, les frères s'en allaient à la guerre. Puis David, encore avec les brebis. Fait que là, son père, il dit, écoute, je t'inquiète, mes frères, puis tes frères, là, va donc vérifier ça. Mais David, là, lui, là, il avait grandi dans ce temps-là. Là. Il était content d'aller, de s'en aller, de ne pas aller voir ce qui se passait, là. Fait qu'au verset 1 Samuel 16, au verset 26. Non, ça ne marche pas, ça, 1 Samuel 16. 1 Samuel 17. Oui, c'est 17-26, excusez-moi. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et ôtera l'opprobre de dessus Israël? » Fait que le jeune, lui, est arrivé pour ses frères, là. Puis il n'a pas trouvé ses frères tout de suite, là. C'est quoi ça, ce géant-là? Qu'est-ce qui se passe ici? Ouais, ben, il nous défie, puis... Hey, là, David dit, « Ouais, qu'est-ce qu'on fait à ce gars-là, si quelqu'un... Là, il voulait faire de quoi, le jeune, là? » Fait que là, verset 17-31, on va aller plus loin, 31. « Lorsqu'on eut entendu ces paroles prononcées par David, on les répéta à Saül qui fit le chercher. » Parce que là, David, il criait partout, là. « Comment ça vous faites pas, vous faites rien à ce géant-là? » David dit à Saül, « Que personne ne se décourage. » Imaginez, là, le jeune, là. Puis là, quand il arrive là, il a dû être un teenager. Là, il a dû avoir à peu près un 16 ans, 17 ans, en l'entour de cet âge-là. Fait qu'il y a un laps de temps que ça va dépasser. Puis imaginez-vous, il avait été loin avec une corne d'huile. Fait que les gens qui sont allés, ils savaient ce que ça voulait dire, que ça aurait été lui le prochain qui allait dominer sur Israël. Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, ton serviteur ira se battre avec lui. Aïe, 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 OK. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre, dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion venait ou un ours venait enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dresse contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'Éternel des armées. D'où vient David cette force surhumaine qui est capable de terrasser le lion et terrasser l'ours? C'est le Saint-Esprit. Pourquoi? Juges 14:6, tournez pas. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson, et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père, à sa mère, ce qu'il avait fait. Quand tu es saisi de l'Esprit de l'Éternel, là, everything is possible. Puis David avait cette conviction-là qu'il était capable de terrasser le géant devant lui. Et c'est ce qui est arrivé. Il l'a terrassé. Là, je vais lâcher mes notes parce que je veux donner du temps à Marcel. Fait qu'on connaît l'histoire. Mais écoutez bien, je vais vous lire le verset. Attends une minute. C'est-tu 18.5, un peu? Parce qu'une place, Saül, il dit, c'est qui ce jeune-là? Attends une minute, je vais le trouver. Okay, alors, c'est plus loin, c'est ça. Attends une minute. 18.5... 18 quoi? 8? Saül... Non, c'est pas 18. Mais je sais qu'une place, Saül, là, il dit, c'est qui ce jeune-là? Ah, c'est le fils d'Isaïe. Ben, amène-le ici, je le veux avec moi, cet enfant, je le veux là. Ben, il n'était pas capable de le reconnaître? Non. Là, quand les années passées, quand il était tourmenté, là, non, il était plus jeune. Il dit ça. Là, il dit, c'est qui ce jeune-là? Il a terrassé. Je le veux avec moi, là. Là, il voulait avec lui. Puis on sait ce qui est arrivé. 56. OK. Informe-toi donc de qui ce jeune homme est le fils. Fait que c'était à lui. Puis là, ce qui est arrivé, là, les femmes dansaient. Saül a terrassé ses 1000. David a terrassé ses 10 000. Là, c'est venu un point là, que Saül, là, il dit, c'est la royauté qui va m'arracher ce gars-là. Là. Puis ce qui est arrivé, on le connaît l'histoire, il a pourchassé David comme tu vas pourchasser un animal qui est traqué. Il a été traqué par Saül. Traqué. Puis Saül, puis David aurait pu le tuer deux fois. Puis il a dit, non, on ne touche pas au oint de l'Éternel. Puis après ça, là, on regarde ça, là, un peu comme Joseph. David, paisible, avec ses brebis, il demande rien. Il n'a rien demandé. Rien. Arrive. Il est incite mon fils, petit jeune. Il arrive là. La canne d'huile sur la tête. Peut-être qu'il ne sait même pas pourquoi. Après ça, il pogne une assurance. Écoute, il écrit bien des psaumes, David. Puis il y a bien des psaumes qui ont été écrits après, mais peut-être aussi dans cette période-là. Puis là, il arrive avec le roi. Puis même quand il a fallu qu'elle combatte les Philistins pour avoir les prépuces, pour avoir marié la fille, Michal. Fait que là, il monte en autorité avec le roi, puis tout, à un moment donné, tau, tout est enlevé, il était traqué comme un animal sauvage. Puis là, l'époque de Tiglad. L'époque de Tiglad, Anita Pierce est venue ici une fois, puis elle nous a parlé de ça. Fait que là, le roi, il les a emmenés, parce qu'un des rois, un des Philistins, aimait David, puis il avait donné cette ville-là. Puis David, il avait 400 hommes avec lui, mais c'était pas tous des hommes de... Des hommes que. Il y avait des bandits, il y avait toutes sortes d'affaires avec lui. Puis ça, il y a eu la guerre avec Israël, mais là, les rois, ils ont dit non. Lui, là, il, avec le Philistin, on se rappelle de ça, ramène-le dans ta ville. Tu veux le garder, toi, là? Ramène-le dans ta ville, on ne le veut pas. Mais quand ils sont partis, puis ils sont revenus, lui, le roi avait donné une ville. Puis dans la ville, là, ils se sont fait piller par des voleurs. Plus de femmes. Plus d'enfants, la ville brûlée. Puis là, ils disent, là, David, c'est à un tel point qu'il voulait lapider David. Mais David, ce qu'il a fait, 1 Samuel 30, 1, lorsque David arriva le troisième jour à Tiglad avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion. OK, je vais aller au verset 6. Fait que je suis obligé de le dire. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tous savaient tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David, step 1, reprit courage. Fait que quand Dieu va venir dans nos vies, puis il va nous déplacer, il va venir enlever des choses qu'on est bien dedans. Prends courage. Prends courage. Prends courage. Puis la deuxième affaire qu'il fait, ça appuie sur le ténèbre. Parce que j'ai pas tout mon verset, là. 6, oui. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Il dit au sacrificateur Abiathar, « Apporte-moi donc l'éphod. » Abiathar apporta l'éphod à David. Et David, dites-le fort, David consulte. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'il faut faire. Vous savez, l'expression « être bien dans ses pantoufles », vous avez déjà entendu ça? C'est quand que dans une... On ne peut pas être bien dans nos pantoufles dans toutes les parties de notre vie. C'est quasiment impossible. Mais des parties de ta vie, tu es bien. Moi, je peux vous dire mon travail, là, je m'en cache pas, puis je me le dis. Bon, ça, je suis bien, je suis dans mes pantoufles. Pourquoi? Parce que j'ai une quiétude. J'ai une quiétude. J'ai pas d'inquiétude. Je suis bien. Tu peux être bien dans ton couple. Tu peux être bien avec tes enfants. Tu peux être bien au travail. Mais il y a un jour que si Dieu te demande d'aller plus loin, il va venir, puis il va te l'enlever. Il va te l'enlever. Là, ce qu'on fait, la plupart du temps, on se met à chialer et à broyer. Puis qui qu'on blâme le premier? C'est Dieu qu'on blâme. On ne blâme pas personne d'autre, c'est Dieu, on le blâme pour nous. Dieu peut arriver, t'enlever un mari, t'enlever une épouse, un enfant. C'est cruel, un enfant, quand on y pense. Un petit enfant, c'est peut-être encore bien plus cruel que les grands-parents. Ton travail, je ne sais pas. Comment tu réagis? Qu'est-ce que tu fais? Tu paniques, tu blâmes Dieu. C'est la faute d'un, c'est la faute de l'autre. La Bible est écrite pour nous donner des exemples. Comment ces hommes-là qui ont passé, ils n'ont pas paniqué. Ils ont arrêté, fait confiance à Dieu, puis ils ont crié vers Dieu. Puis Dieu, puis on connaît l'histoire de David. David, il est venu à un point qui s'était levé dans le royaume. Là, il est devenu roi de Juda. Ensuite de ça, quand Saül est mort, puis tout ça. Mais c'était le plan de Dieu. Puis c'est ce gars-là qui est arrivé là, après ça, là, que Saül est mort avec ses fils. Puis juste une histoire vite faite, après ça, qu'est-ce qui est arrivé à David? Absalom avait une sœur. Amon désirait sa sœur. Au lieu d'aller voir le roi, « Roi, au roi, je l'aime, est-ce que je peux la marier? » C'est pas ça qu'il a fait. Il a fait violence, autrement dit, il l'a forcé, il a couché avec. Puis après qu'il a fait l'acte, il l'a haï. Il a eu une haine envers lui. Absalom, il a vu ça. Ils l'ont dit au roi, mais ça dit qu'il y a deux ans qui sont écoulés, puis David n'a rien dit. Fait qu'imaginez toute la haine, puis l'histoire d'Absalom, qu'à un moment donné, encore David, bien dans ses petites pantoufles, un assez bien dans ses pantoufles, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris de la femme de l'autre, puis il a fait tuer comment il s'appelle lui? Uri. Mais Dieu l'a rétabli. Pourquoi? Parce que David avait un cœur repentant. C'est pour ça que Dieu dit, j'ai choisi celui-là parce qu'il a un cœur selon mon cœur. On peut faire des erreurs. On va tous en faire des erreurs. Puis des grosses erreurs. Mais il faut avoir un cœur repentant. Puis Dieu va nous pardonner. Amen. Fait que c'est à peu près ça que je voulais dire. Puis je vais terminer avec tournez pas. 1 Pierre 5, 8, 9 nous dit, soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Philippiens 4, 6, et je termine. Ne vous inquiétez de rien. Mais en tout le monde dit toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Par du chialage, Non, c'est ce qu'il dit. Par des prières et avec action de grâce. Puis, ton chant est à tellement à propos, François-André. Même si on ne le voit pas, même si on ne le ressent pas, Dieu agit. Amen. Dieu agit. Amen. Que Dieu vous bénisse.